Bonjour, bienvenue sur Aligre FM 93.1 dans Vive le cinéma, votre émission de cinéma hebdomadaire sur Aligre FM et sa déclinaison Nuit américaine, présentée par Bernard Payen, réalisée ce matin par Enrico Mastro Giovanni et Marino Martinez. Je suis très heureux d'accueillir ce matin, jusqu'à midi, Charlotte Silvera, cinéaste. Bonjour, Charlotte.
Bonjour, Bernard.
Charlotte, vous êtes une combattante du cinéma, et vous réalisez des films depuis le début des années 80. Je le dis aux auditeurs, je le rappelle aux auditeurs, parce que vous avez signé quand même, je crois, 9 longs-métrages, fiction ou documentaire.
On va dire 7 longs-métrages pour le cinéma, et 2 unitaires, au temps béni de France 2, qui était dirigé à la fiction par Didier Decoin.
Voilà, pour être précise. Le premier film, c'était Louise l'Insoumise. Il est ressorti en salle, je crois que c'était l'an dernier, c'était en 2021, mais vous avez aussi réalisé des courts-métrages. Et donc, vous êtes ici pour votre tout dernier film, Lettre à l'enfant que tu nous as donné, qui sort en DVD, en VOD, après être sorti sur quelques écrans, mais vraiment très peu, on pourra en parler. Et c'est un film important, c'est un film nécessaire, qui s'adresse aux générations à venir, tout en dressant une sorte d'instant T de notre époque, des grandes thématiques, des grands débats qui agitent notre société. Est-ce qu'on peut le résumer comme ça, déjà ?
Oui, je pense que c'est sous forme d'un manifeste, une adresse aux jeunes générations qui sont, somme toute, notre avenir. Ça évoque des sujets qui les concernent, mais peut-être je dirais de surcroît que j'essaye de combler des lacunes qu'ils pourraient avoir sur notre histoire avec un grand H et surtout sur l'instruction civique. Mais là, ça ne concerne pas que les nouvelles générations. Ça peut aussi concerner les parents, les grands-parents, ceux-là même que je cite dans le titre, la lettre à l'enfant que toi, parent, tu nous as donnée. C'est sa venue au monde que je célèbre ainsi.
Et ça voudrait dire aussi, peut-être qu'il y a eu des... Quand on parle de lacunes... qu'il y a eu une sorte d'histoire officielle de la société qui a été enseignée et qu'on n'a pas mis assez l'accent sur certaines choses.
Tout le monde le sait aujourd'hui, depuis MeToo, on va dire. Et heureusement, c'est en train de se réparer, tout doucement. C'est cette histoire des femmes, de leur apport à la société, à l'éducation de leurs enfants, filles et garçons, de leur combat pour nos libertés, de leur combat pour une égalité femmes-hommes qui est en train de se construire, mais on est encore loin du compte, surtout au plan social, on va dire, mais les femmes commencent à gagner sur tous ces terrains. Pour ce qui nous concerne, je me suis longtemps battue. Quand vous m'avez citée comme combattante, c'est vrai que je suis une cinéaste engagée, mais je ne transmets pas de message dans mes autres films que dans celui-ci, qui est une adresse directe. C'est moi qui m'adresse à d'autres. C'est vraiment ma voix, mes propres paroles qui sont dites. Tous mes autres films montrent un engagement à élever les enfants, à transmettre et à confier à des petites filles, des adolescentes, des rôles majeurs qui n'étaient pas encore montrés au cinéma. Et il a fallu un combat qu'on a gagné avec un collectif que j'avais monté avec d'autres qui s'appelait collectif sexisme au pluriel, non, sexisme au singulier sur écran au pluriel, et qui a recueilli des centaines de signatures, alors là, hommes, femmes, politiques, intellectuels, artistes, interprètes, tout ça, et qui a convaincu la ministre de la Culture de l'époque, Françoise Nyssen, a décidé ce que nous réclamions, des quotas et la parité dans le monde de la culture. Elle soulignait à ce moment-là, ça devait être début 2018, que le cinéma serait un mammouth le plus difficile à convaincre. Et nous y arrivons tout doucement. Il y a plus de parité dans les comités de sélection de cette importante institution que sont les festivals. Plus on montre de films de femmes et c'est mathématique, plus elles ont de chances de remporter des prix. Ça s'effectue maintenant. Ça a été long ce parcours, mais ça s'effectue. Beaucoup d'instances maintenant doivent respecter la parité. Et quant au quota, je n'ai pas les derniers chiffres maintenant. Mon nouveau film, j'espère Bernard que ce n'est pas le dernier. Mon nouveau film m'absorbe totalement. Donc, je n'ai pas pris les chiffres aujourd'hui. Mais il me semble que maintenant, dans les œuvres audiovisuelles ou cinématographiques, on a en tête le souci de montrer des œuvres de femmes. Et ça, c'est considérable.
Et cet engagement-là, il vient d'où chez vous cette volonté de tous les instants. Je revoyais Louise l'Insoumise, le début de Louise l'Insoumise, très récemment, où en fait, cette Louise, elle est sous la table, elle écoute la radio.
La télé. Elle n'écoute pas, elle regarde, elle mange des yeux.
Elle mange des yeux, mais comme on est à la radio, j'ai fait ce lapsus, voilà, forcément. Donc elle écoute la télé, mais elle, on n'a que le son, elle est sous la table, elle entend justement, elle entend cette critique qui est faite aux jeunes aussi, dès le premier film, dès les premières images, il y a ça, donc cette volonté du coup de défendre les jeunes dans tous vos films, d'en dresser le portrait d'adolescentes en rébellion, c'est le cas de Louise, mais en tout cas de s'adresser à eux, ça a toujours été, même si effectivement ce film-là, on va y revenir, est le plus personnel, est le plus engagé, mais il y a quand même, il vient de loin ce film.
Je dois tout à l'école. Ma conviction du combat pour la laïcité. Et la télévision, quand elle est bien utilisée, est une vraie fenêtre sur le monde. J'ai été nourrie de ça. J'ai tout appris par le cinéma. Comment on embrassait un homme, comment on le repoussait, comment, avec le sel de la terre, on pouvait convaincre, se battre, obtenir des droits. Et très tôt, je devais avoir 14 ans ou 15 ans, j'étais au lycée, j'ai monté tout de suite un ciné-club. Et avec ma petite mobylette, j'allais chercher les films. Le cinéma m'a nourrie, m'a éveillée, m'a fait découvrir qu'il y avait autre chose que la famille. Des critiques à l'époque appelaient Louise l'Insoumise « Famille, je vous hais ». Je pense que ça peut être un danger, la famille, qui enferme. Vous avez parlé de ces jeunes que j'ai souvent filmés, que j'ai souvent montrés, en fiction par exemple. Dans mon film, c'est la tangente que je préfère. J'ai montré une adolescente surdouée en maths et qui était née dans le nord de la France, dans un terreau très ingrat. Mais elle avait ce don d'être surdouée en mathématiques. Ce fut le premier film, il y en a eu deux, de fiction sur les mathématiques. Et celui-ci m'a permis de me mettre en contact avec le doyen des inspecteurs de maths de toute la France. Il a vu le film, c'était presque le seul, le film est sorti un 10 août à Paris, c'est-à-dire il n'y avait même pas de piétons, il n'y avait pas de bagnole, un 10 août, un film sur les mathématiques. C'est comme ça. On ne réécrit pas l'histoire. Et Il s'appelait Monsieur Attali, rien à voir avec Jacques Attali. Il m'a dit que c'était la première fois qu'il écrivait à une artiste en m'écrivant « Vous avez accompli l'œuvre entière de ma vie. Est-ce que je pourrais vous rencontrer ?» J'ai pris mon téléphone. À l'époque, on se téléphonait. Et j'étais intriguée par cette phrase. Il m'a dit, c'est encore le sujet aujourd'hui du reste, il m'a dit, vous avez enfin montré qu'une jeune fille pouvait être douée en mathématiques. Et la mathématique, comme en ce moment aussi l'intelligence artificielle, on ne sait pas pourquoi des jeunes femmes qui sortent très nombreuses de grandes écoles n'abordent pas ces sujets-là. Avec mon ami Cédric Villani, c'était un combat que de montrer que des jeunes filles peuvent accéder à ces sciences dures. Et on fait tout avec d'autres associations féministes pour les pousser à s'engager sur ces voies-là qui ne doivent pas être discriminatoires.
Alors, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter la bande-annonce de Lettre à l'enfant que tu nous as donnée pour être dans le vif du sujet.
Mon enfant, je vais te raconter une histoire qui est la nôtre.
Où tu m'emmènes, là ?
Aujourd'hui, tu as la chance de vivre dans un pays qui respecte tes droits. Mais demain, crois bien que ce qui te semble évident a été arraché de hautes luttes.
Être citoyen, c'est pour faire avancer son pays et faire partie de la République.
C'est par les lois que nous réussirons à faire avancer l'histoire.
Et tu voudras obtenir victoire. Tu serais plus vaillant si tu avais pour autre horizon que ta rue, le monde. Quelle que soit la situation qui te paraît injuste, scandaleuse, ne garde pas le silence. Après 1789-1967, voilà 2017 avec le hashtag MeToo, la nouvelle révolution. Ne te laisse pas ravir ta jeunesse. Tu es unique, plus fort que tu te vois, mon enfant. Le monde auquel tu aspires ne peut pas naître d'un coup de baguette magique. Oui, c'est à ta génération de reprendre le flambeau.
Voilà, on vient d'écouter la bande-annonce de Lettre à l'enfant que tu nous as donné, qui sort en DVD, Charlotte Silvera, dans Nuit américaine ce matin, jusqu'à midi. Donc, c'est un film qui est relié aux bases, aux fondements de votre cinéma, je le disais, donc sur le dialogue avec les jeunes, puisque vous en avez fait sans cesse le portrait, mais aussi l'idée de la liberté. Votre société de production s'appelle Liberté Film. C'est vraiment le mot d'entrée de jeu, le mot le plus important presque à dire pour parler aussi de ce film et de votre cinéma.
Oui. Je le paye cher. Mais je continue parce que je connais tous les barreaux de ma prison. Je suis poussée depuis plusieurs films à produire ce que j'ai à dire et à exprimer. Je ne l'ai pas voulu, j'y ai été contrainte. C'est pour ça que je parle de barreaux. C'est soit on renonce, on accepte qu'un système nous broie, ou soit on tente de continuer à exprimer, à défendre, surtout on parle de cinéma, à montrer, à instruire, à élever les consciences. Chacun de mes films concerne ça. Mais les enfants, les adolescents n'ont jamais branché les distributeurs, ont très rarement été honorés dans nos cinémathèques. ça n'intéresse pas les adultes. Combien de fois les distributeurs me disaient, enfin, les jeunes auxquels vous cherchez à vous adresser, Charlotte, mais ceux-là, c'est ceux-là même qui vont voir les blockbusters américains. Certes, mais tous ne sont pas comme ça. Les envelopper dans cette attitude de spectateur ou de téléspectateur, on peut plus dire téléspectateur, on dirait sur Internet, des youtubeurs qui regardent leurs films en replay à l'heure qui leur convient. Ils sont tous très différents, jeunes et connus, on vient de l'entendre, des jeunes dans cette association qui s'appelle Tous élus, qui prépare des jeunes de 15 ans, 16 ans, 17 ans à être formés peut-être à être députés. Je trouve ça formidable. C'est agir qu'il nous faut. Moi, j'agis avec ce que je connais et on m'en empêche beaucoup. Mais c'est pas grave, je vais encore chevaucher la haie qu'on a mis devant moi. Avant, c'était parce que c'était un film de femme, on les mettait pas en avant. Maintenant, on a plus de respect pour les films de femmes. Encore faut-il qu'un documentaire de création comme celui-ci, j'insiste sur création, parce que dès l'écriture de la lettre que j'ai faite avec au-dessus de mon épaule Mathieu Noël, et je lui en suis très reconnaissante. Mathieu Noël, qui a maintenant une chronique sur France Inter tous les matins, a pissé de rire, formidable. Lui aussi, il s'est croqué l'air du temps. J'ai écrit chaque phrase que vous entendez était déjà prévue. Ici, il y aura des archives. Ici, il y aura de l'animation. Ici, il y aura de la fiction. Ici, il y aura ce que j'appelle des capsules. C'est que il y a bien eu des cinéastes qui se sont exprimés au travers d'une voix off. Le plus attachant à mes yeux et que je respecte profondément, c'est Chris Marker. Il s'adresse à nous. Il nous met dans sa pensée. Mais quelqu'un m'a fait remarquer qu'en revanche, dans la lettre à l'enfant, la voix off qui s'adresse aux jeunes laisse les jeunes lui répondre à la voix. Et ça, c'est tout à fait nouveau dans cette écriture. Peut-être pour les jeunes cinéastes qui analyseront la manière dont j'ai fait ce film avec tant d'expressions artistiques de mon créateur d'animation, Christian Volkmann, du graphisme, de la fiction, des droits de long métrage qu'on m'a confiés. Merci François Ozon.
Grâce à Dieu. On en voit un extrait grâce à Dieu.
Ah oui. Et M de Yolande Zobermann, qui m'ont confié leurs extraits de films. Et il y a la fiction. La fiction, je mets en scène des jeunes. Donc c'est pas un documentaire.
Non, c'est un film effectivement patchwork ou kaléidoscopique, un film hybride pour employer un mot à la mode, c'est-à-dire que effectivement ce qui est très intéressant c'est que c'est une forme complètement inédite. C'est-à-dire que d'ailleurs le montage est aussi assez fluide finalement, c'est-à-dire que pendant ces presque 1h20 1h24 de film, il y a vraiment cette idée de mélanger mais de manière finalement assez cohérente les archives de l'histoire de la société, des extraits de films, effectivement des extraits de fiction faits par d'autres, mais aussi des fictions que vous avez fait pour l'occasion, Charles Silvera. Et
il y a juste un an, ouais, presque jour pour jour, je tournais la fiction.
Juste un an. Et puis Christian Volkmann, effectivement, qui est connu pour avoir fait ce long métrage d'animation Renaissance, très 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 beau, qui effectivement a réalisé les séquences d'animation qu'on voit dans le film. Donc c'est vrai que c'est très inhabituel d'avoir un film comme ça, un film qui raconte finalement une histoire de la société, qui s'adresse aussi aux jeunes en leur disant, mais ça c'est vraiment quelque chose qui revient qui revient beaucoup dans le film, je trouve, cette idée de penser par soi-même. cette idée qu'on doit absolument garder, conserver un esprit critique et penser par soi-même. Il y a aussi cette phrase « ne sois pas le joug de tes parents », enfin l'idée que les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, qu'ils ne doivent pas penser comme eux, ce qu'on leur a enseigné, etc. Forcément se nourrir de ça, mais aussi avoir sa propre liberté de penser. Ça, c'est important dans le film, et en général.
Je suis assez respectueuse de ces jeunes qui ont déjà des questionnements auxquels on essaye de répondre quand on est proche d'eux. Moi, je suis entourée de beaucoup de jeunes. Je le dis souvent, mes petits jeunes veillent sur moi. C'est eux qui viennent me changer mes ampoules. Quand il y a une souris, je crie dans la rue, au secours, il y a une souris. Ils viennent tout de suite pour la chercher. Mais pas que ça. Pas que ça, je les ai obligés à aller voter. Je leur ai photocopié le portrait des candidats. Pas à ces dernières élections, parce que je travaillais sur mon film, mais toutes les élections auparavant. Et je distribuais tous les candidats, leurs profils, tout ça, pour que ils se penchent sur la chose. C'était très important. La liberté de penser, la soif d'apprendre et d'échapper, surtout aujourd'hui, parce que nous sommes modernes, Bernard, aux influenceurs, de ne pas comprendre à quel point ils les manipulent. Certains sont rémunérés pour porter des marques et afficher des marques. Et beaucoup de jeunes tombent dans le piège des influenceurs. Récemment, là, cet été, c'était du métavers qui me faisait peur. J'écrivais à des salles de cinéma, ensemble, luttons, résistons au métavers. Le métavers, pour moi, était ce qu'il y a de pire pour échapper au réel, pour croire qu'on peut aimer, rencontrer, serrer dans ses bras quiconque est virtuel. Ça m'a effrayée et je pense que c'est complètement en déclin, heureusement. Parce que ce lien avec les jeunes, c'est très compliqué maintenant à renouer, alors qu'on doit renforcer absolument ce lien intergénérationnel. Ils ont tout à leur portée, sauf maintenant d'accepter le contact, l'échange. Parfois, ils arrivent dans des écoles, je viens d'entendre des professeurs, à l'occasion de l'anniversaire de l'hommage rendu à Samuel Paty, qui est dans mon film. Mmh. Et beaucoup de jeunes enseignants sont atterrés par des enfants qui sont bloqués dans un certain dogme, qui ne parviennent pas à en sortir, à accepter qu'on jette le doute dans leur esprit. Ça, c'est préoccupant aussi.
Mais c'est vrai que ce qui apparaît en filigrane, enfin même de manière évidente dans le film, c'est la difficulté finalement pour ceux qu'on appelle les millennials, qui sont nés dans les années 2000, d'être confrontés aux problèmes écologiques, au terrorisme, au Covid aussi, enfin toutes ces catastrophes finalement qu'on subit.
Ces crises,
ouais. Bon, évidemment, c'est très contemporain, mais évidemment, ce qui est intéressant, c'est aussi de repartir en arrière et de voir aussi ce qui a été acquis, ce qui a été. Et vous partez de mai 68, c'est un peu ça aussi, même si évidemment, à des moments, vous remontez plus loin dans certains aspects, mais il y a cette idée aussi que qu'est-ce que mai 68 a apporté, en fait, à notre société ? Et pas seulement en France, d'ailleurs, vous le rappelez, d'ailleurs.
Bien sûr. Oh non, ça avait pris, je montre la carte, ça avait pris le monde entier. Il y avait d'une part la guerre du Vietnam qui mobilisait les jeunes aux États-Unis ou dans les pays de l'OCDE, mais il y avait un manque de prise en compte des besoins de la jeunesse qui allait exploser. Et c'est intéressant de voir ce que sont devenus les 68 arts. Il y a une phrase historique qui est dite dans le film par Fabrice Drouel. Continuez comme ça, dans 10 ans, vous serez patron ou ministre. Ça a été le cas. L'âme de mai 68, son apport considérable, considérable à la pensée et à l'avancée humaine, je dirais, a entre autres provoqué la prise de conscience des femmes. Ça a commencé aux États-Unis, chez nous c'est venu dans les années 70 pour nos historiques du MLF. Et on leur doit tout, cet éveil. Je parle avec des jeunes filles cinéastes d'aujourd'hui. Et je me souviens quand je faisais des documentaires pour combattre pour la contraception et l'avortement légalisé, ce que finalement on a obtenu, que je montrais des films dans des lycées. Mais les gamines, elles croyaient que la pilule, j'allais dire, elles sont nées, et la pilule en même temps. Moi, je leur disais, mais vous plaisantez, il y a encore 2 ans, c'était interdit, il y a 2 ans. Et bien là, je vois des jeunes cinéastes, évidemment, qui se fichent un peu de la grande histoire, celle qui nous agite encore. Et il y a encore des historiques du MLF qui sont là pour raconter, pour alerter par rapport à toutes ces formes très différentes du féminisme aujourd'hui où tout le monde s'interroge. Mais c'est vivant, quoi. Et la cause des femmes maintenant est prise en compte. Prise en compte, on a réussi.
Et c'est arrivé après, c'est ce que vous montrez dans le film. C'est-à-dire que c'est vraiment, donc, du coup, arrivé après 68, enfin, la création du MLF en 1970. Puis après, cette loi Pelletier, finalement, qui est importante de rappeler, qu'on ne rappelle pas assez. C'est-à-dire qu'on rappelle toujours, évidemment, la loi Veil.
Vous avez raison.
Mais on parle rarement de la loi Pelletier.
Ça a été un autre combat. C'était de sortir le viol. De la correctionnelle, de faire qu'il soit reconnu comme un crime et qu'il mérite pour les violeurs la cour d'assises. Vous verrez dans le bonus du DVD une séquence que j'ai dû couper, mais qui est très importante pour moi, parce que je donne les chiffres de l'incarcération. Il y a à peine 3% de femmes incarcérées. Ça m'intéresse, j'ai fait un film qui s'appelle toujours Prisonnière. Comme disait Bernadette Lafont, le premier film choral. Girardot, Lafont, elles y étaient toutes. Donc, le viol, lorsque, enfin, grâce à des procès gagnés par Gisèle Halimi, a été reconnu comme un crime, grâce à la loi Pelletier de 1980, je crois me souvenir, il y a eu là un vrai tournant. Et dans le bonus aussi, je montre un extrait où Martin Storti, à l'inauguration de la plaque commémorative, à une des avocates qui s'était battue aussi pour écrire, rédiger des textes de loi concernant le viol, faisait remarquer que c'était nos copains gauchistes qui étaient contre le vote de cette loi. Incroyable. Parce que, évidemment, ils pensaient que ce seraient les émigrés qui trinqueraient le plus. Comme si les femmes... Aujourd'hui, on peut parler aussi des jeunes adolescents. Dans le film, je dis toujours femmes et jeunes. Pouvaient être... Comment dire ne pas être protégée uniquement pour des considérations sociales. Elles devaient porter ça sur leurs épaules. Eh bien non, le viol est un crime. Et c'est extraordinaire qu'en France, on l'ait reconnu et qu'il soit jugé, comme maintenant on en entend parler. Pour les jeunes ados aussi, vous avez vu. Pour les églises, tout ça sort maintenant.
Complètement. Et ce qui est important de dire, c'est que parler en tout cas des différentes étapes comme ça, les différents jalons, j'allais dire, du féminisme dans la société, qui aboutit évidemment à MeToo il y a quelques années, mais aussi à ces fameuses lois, et ça aussi c'est intéressant de le mettre en perspective, les lois très récentes de l'année dernière, PMA-GPA, qui du coup nous...
La GPA n'est pas encore passée.
La PMA,
ouais. Oui.
Mais voilà, on espère que... Enfin, en tout cas, c'est cette idée que aujourd'hui, dans la société, c'est la fin du triangle père-mère-enfant. C'est ce que vous rappelez dans cette mise en perspective, en tout cas, du film. Et c'est toujours important, finalement, de raconter autrement la société. C'est ça aussi, le film.
Merci, Bernard, de l'avoir noté. Il y a des avancées, mariage pour tous... On a peur qu'ailleurs, on le voit pour l'avortement, ces lois soient bafouées, bien sûr, mais pire,
verrouillées.
Oui, verrouillées ou interdites.
Interdite.
Vous avez vu ce qui se passe, je le montre dans le film, en Pologne, où de nouveau l'avortement est interdit, ou des États-Unis. Les lois ne sont pas intangibles. Faire comprendre à tous, et aux jeunes en particulier, parce que c'est à eux que revient maintenant à prendre en charge tout ça, c'est cette conscience qu'ils doivent avoir qu'une loi votée n'est pas encore dans le marbre. Il faut veiller, comme le lait sur le feu, à ce que nos lois soient respectées. Et pour... l'avortement, ou pour le viol, c'est un grand pays que le nôtre d'avoir ces lois-là. C'est dans l'hémicycle, vraiment. Et des jeunes ne savaient même pas ce que signifiait le mot hémicycle, c'est dire que leur avenir, leur vie se fera. C'est là. La libération de temps, de... comment dire, problèmes sociaux, mentaux, qu'ont rencontré les femmes dans toute leur vie, c'est à la chambre que ça s'est décidé. De la même façon pour les gays, les lesbiennes. C'est à la chambre que ça s'est décidé, dans le respect de chaque individu. C'est la grandeur de la France, ça. Et je montre qu'il y a ailleurs aussi des femmes qui se battent, aussi bien la présidente de l'Europe, et que cette femme que j'admire tant, la présidente de Taïwan, je le montre dans le film. Parce que des femmes savent tenir tête, parfois, à des géants aussi puissants que la Chine. Le combat des jeunes Iraniens et des jeunes Iraniennes est à la fois effrayant, j'arrête pas de me demander comment ça va finir, et j'ai peur. Mais c'est tellement libérateur. C'est passer de la libération du corps à celui de vouloir faire tomber un régime. Voilà. Les jeunes afghanes, comme il est dit dans le film, grâce à Malala, savent que c'est sur l'éducation que tout ça repose. Et les talibans ont berné les États-Unis et les Européens, en leur promettant que le sort des jeunes filles serait identique aux garçons. Ils nous ont abusés, ils ont menti, et les petites, comme Malala au Pakistan, réclament l'éducation, l'instruction. Et il faut les soutenir.
À l'inverse, vous racontez aussi dans le film que, enfin, y a cette phrase « pas de naïveté ». Aussi, les femmes, quand elles ont le pouvoir, il y a aussi des dangers. On l'a vu récemment, elle n'est pas évidemment dans le film puisque c'est très récent, mais Giorgia Meloni, par exemple, en Italie, voilà, on a un exemple contraire.
Oh ben, surtout en Birmanie.
Et en Birmanie aussi, ouais, bien sûr.
Parce que pour l'heure, l'extrême droite qui passe au Parlement, c'est un vote démocratique. Ce qu'elle a fait aux migrants est impardonnable, elle est montrée du doigt. Enfin, elle n'a pas fait aussi grave que la Birmane. Et dans l'entreprise, dans les structures politiques. Il n'est pas rare que des femmes arrivées au pouvoir, on peut comprendre, elles se sont considérablement battues, tiennent à le rester. Et bien souvent, elles sont moins tendres avec leurs consoeurs, jouant des coudes pour être à niveau, mais elles le sont grâce à leurs études, grâce à leurs coups de coude pour y parvenir. Là aussi, on aimerait plus de distribution, plus de partage pour soutenir les autres qui ont du mal à monter les échelons de cette échelle qu'a très bien représenté Christian Volkmann dans le film.
Absolument. Donc, qui a réalisé les séquences d'animation. On va marquer une pause musicale, on va écouter une voix brésilienne qui malheureusement s'est éteinte. Gal Costa est morte la semaine dernière. C'était une grande voix du tropicalisme et j'avais envie qu'on lui rende hommage donc à travers cet extrait, ce titre qu'on va entendre maintenant.
Eu vi um menino correndo. Eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. O sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, é a parte que o sol me ensinou. O sol que atravessa essa estrada que nunca passou. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Eu vi muitos cabelos brancos na fronte do artista. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Aquele que conhece o jogo do fogo das coisas que são. É o sol, é a estrada, é o tempo, é o pé e é o chão. Eu vi muitos homens brigando, ouvi seus gritos. Estive no fundo de cada vontade encoberta. E a coisa mais certa de todas as coisas, não vale um caminho sob o sol. E o sol sobre a estrada é o sol sobre a estrada. É o sol. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz tamanha. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha. Por isso é que eu canto. Não posso parar. Por isso essa voz, essa voz, essa voz tamanha.
Vous écoutez Aligre FM 93.1, Nuit américaine, vive le cinéma. Nous sommes en compagnie de Charlotte Silvera pour son film Lettre à l'enfant que tu nous as donné, qui sort en DVD. On vient d'écouter Gal Costa tout de suite. Ça me permet justement de parler de musique et de voix. Musique, pour citer justement la musique du film, qui est faite par Crystal Murray et Jérémy Chatelain, la musique de votre film, Charlotte Silvera. C'est toujours important, d'ailleurs, la musique, j'ai noté, dans tous vos films. Il y a eu Michel Portal, dans le passé, qui a réalisé une musique originale.
De prisonnière. Bernard Lubat, qui a fait plusieurs musiques pour moi. Reinhard Wagner, qui a fait un de ses films formidables avec Lynn Renault et Jean-Pierre Cassel pour France 2. Et là, en cohérence avec mon projet, j'ai écouté ce que faisaient les jeunes. J'ai passé une semaine à écouter, en même temps que je cherchais mes archives. Et mon intérêt pour sa diversité, par le grain de sa voix, s'est porté sur Crystal. 19 ans, je ne sais pas si quelqu'un d'autre a confié sa BO à une jeune de 19 ans. Et sa maman a entendu la lettre, je l'avais enregistrée, je lui ai donné à écouter, c'est plus facile que de la lire. Et du coup, pour parler comme les jeunes, et du coup, elle a organisé un déjeuner, et Crystal est venue, elle nous écoutait, et sa maman, là, Valérie, et moi en face, et Valérie lui racontait tous les combats que j'allais évoquer dans le film. La petite, elle était subjuguée. Elle dit, ah bon, il parle de tout ça, le film. Et à un moment, elle a fait à sa mère, c'est bon. Alors, moi, je me méfiais un tout petit peu, pas assez d'ailleurs, des jeunes, je ne comprenais pas très bien. Je lui ai dit, tu veux dire quoi, Crystal? On le fait. Et là, j'ai fait comme ça, tapé dans la main, et sa production, Because, a voulu lui confier un producteur de musique. Hein. Et ils sont amis d'enfance, Jérémy Chatelain. Je me suis remarquablement entendue avec eux. La seule chose, comme Crystal écrit en anglais, et chante, alors elle va du jazz au pop, je l'ai vue sur scène, elle est complètement féline, elle est extraordinaire, elle envoûte et tout ça. Et elle m'a, d'emblée, ils m'ont donné un exemple, un petit bout à écouter, et bien sûr, elle a posé sa voix et elle chantait en anglais. Alors j'ai dit, stop les enfants, tout le film, il va y avoir une voix off, il est impossible d'entendre un mot, pas la voix, un mot supplémentaire, c'est pas possible. Ils vont être écrasés par la voix off. Je ne savais pas encore, mais je suis bodorée. Et je dis, mais Crystal, je veux ta voix. Tu peux faire des tas de choses avec ta voix et ta bouche, mais pas un mot, et surtout pas en anglais. Je suis très francophone, très francophile, je défends énormément ma langue. Je le dis partout, dans toutes les instances. Et là, ça a été très compliqué, ça. C'était une étape dont elle ne s'était pas doutée. Et moi, je n'avais pas pensé à le lui dire. Et c'est Jérémy qui a su se démerder pour qu'elle parvienne à ça. Et m'ont autorisé une fois à les filmer. D'ailleurs, je crois que c'est dans le bonus du film, je ne me souviens plus. Et c'était incroyable comment elle posait sa voix et comme elle bouge au rythme de ses musiques. J'espère, Bernard, que vous avez noté. Parce que même dans le café, dans les années 68, quand il y a Bruno Mazur et Clémence Tioli, au loin, on entend du jazz. C'est eux. La musique, moi j'ai adoré la musique que vous avez passée tout à l'heure des génériques. J'ai eu que du bonheur pour les musiques de mes films. Ah, ça, franchement. Des collaborations très qui illuminent le propos dans le film, dans la tangente. Parfois, je réécoute la bande son de Bernard Lubat, que des producteurs avaient refusé, mes coproducteurs, et on l'a imposé. Il a été nommé aux Victoires de la musique, Bernard, pour cette musique. C'est presque du Bach. J'ai adoré travailler avec Bernard. Mais là, pour ce film, pour La lettre à l'enfant, je voulais quelque chose de plus fort. Le générique de fin me fait danser quand je l'entends en salle, avant d'entrer pour un débat qui va parler de choses terribles, des lois, du combat des femmes, de ce qui se passe à l'étranger, tout ça. Et je rentre et j'ai la pêche avec la musique de Crystal et Jérémy. Alors, ils ont vu le film et ils l'ont adoré.
C'est difficile de montrer, ça a été difficile de montrer le film en salle, pour avoir notamment des échanges, des débats, des retours. Est-ce qu'il y a quand même des, justement, parce que c'est intéressant d'avoir un échange, du coup, avec tous ces jeunes à qui s'adresse le film, et est-ce que vous en avez des retours? Comment ça se passe dans les retours sur le film?
C'est pareil, je vais pas généraliser. Presque toujours, les jeunes, et surtout quand ils sont accompagnés de leurs parents, chaque fois, tous les débats, il faut que l'éducation nationale passe ce film. Je m'y emploie, c'est très compliqué, mais je m'y emploie. Il faut que ça arrive aux lycéens. J'ai fait bien sûr la demande au CNC que mon film soit inscrit à collège ou lycée et apprenti. J'ai choisi lycée et apprenti au cinéma. La réponse devrait m'arriver en 23-24. Donc, moi, j'ai pas le temps. Donc, je me suis adressée directement à l'Éducation nationale et au ministère de l'Enseignement supérieur. Et je contacte les facs. Donc, tout le monde, d'emblée, pense à ça. Il faut montrer ce film. Et puis, il y a des jeunes qui me posent des questions, parce que parfois, ils sont heurtés par des images d'archives. D'autres soulignent le travail de documentation considérable qui a été fait sur le film. J'ai pour habitude de raconter que j'ai passé un an et demi tous les soirs avec les archives et un picard à bouffer, même les réveillons, même mes anniversaires. Je regrette rien. Et j'ai eu des documentalistes formidables qui sont allés défendre la possibilité de signer avec les ayants droit et de me démerder plein d'archives. Il y a presque 12 minutes d'archives et des amis journalistes eux-mêmes me demandaient mais où j'avais trouvé ça. C'est considérable. Et c'est marquant. Je ne sais pas si vous avez noté, Bernard, j'ai voulu que mon film ne soit pas marqué par une année précise. J'ai écarté toutes les images avec les masques, signalant le Covid.
Oui.
Non pas qu'on l'oubliera, le Covid, mais les seuls qui sont masqués dans le film, ce sont les manifestants à Cuba. Parce que la première manifestation à Cuba, il faut la rentrer aussi dans notre histoire. Et là, ils étaient masqués, il y avait le Covid là-bas qui craignait. Et je l'ai gardé tel que cette archive.
Alors, ce qui est important, quand j'écoute en fait aussi votre voix, parce qu'il y a des bonus aussi qui sont très importants à signaler dans ce DVD, notamment le souvenir aussi d'une enseignante de cinéma qui vous a transmis des choses aussi, et puis un bonus où vous parlez un peu de votre qui s'appelle Lettre d'une cinéaste, qui est notre lettre. Où vous parlez aussi de vous, de votre rapport au cinéma, et qui se termine par cette phrase de manière abrupte, comme ça, finalement, faire des films, c'était sauver sa peau. Voilà, c'est ça, sauver sa peau. C'était ça, en fait, c'est ça le cinéma, depuis toujours, pour vous, Charlotte Silvera, sauver votre peau.
Ben, je le raconte d'ailleurs dans la lettre d'une cinéaste. Moi, je voulais dessiner, peut-être peindre. J'étais dans une famille qui ne m'a pas autorisée. Ma mère m'a enfermé mes mains dans des moufles pour que je ne dessine plus.
Oui, c'est fou, ça. J'ai appris ça.
J'étais une enfant battue. C'est pareil, je suis contente du sort qu'on fait maintenant aux enfants pour qu'ils puissent alerter de ce qui se passe dans leur famille. Donc, peut-être serais-je devenu peintre, c'est aussi pour sauver sa peau, hein, parce que là aussi, c'est une démarche, une expression très compliquée pour arriver. Et donc, moi, il m'est resté ça. Je me suis inscrite à la fac du cinéma. J'ai tout de suite pris du matériel vidéo. Je voulais apprendre à filmer. Je voulais faire des images. Je voulais faire du montage. Ce que j'ai fait. Et cette expression, c'est la plus compliquée parce qu'elle demande des fonds en amont. Et puis, de convaincre des distributeurs. Mais c'est terrible, quoi. Et plus on avance, et plus ce cinéma, si inventif, si divers, plus il va être difficile à maintenir, à réaliser et à exister. Mais c'est un combat. Toute forme d'art est un combat.
Pourquoi c'est plus difficile aujourd'hui? Enfin, ça a toujours été difficile, d'ailleurs.
Parce qu'il y a une multitude d'œuvres. Je téléphone aux exploitants pour leur proposer mon film. D'ailleurs, cette semaine, je vais le présenter à Pézenas, à Narbonne et à Clermont, l'Hérault. Et ils passent la semaine suivante en Charente-Maritime. Les exploitants vous disent qu'ils sont mais assaillis de propositions. Il y a de plus en plus d'œuvres, de livres, de peintres, de cinéastes. Il y a de plus en plus de tout. Alors, pour arriver à un écran, pour arriver à une galerie, pour arriver dans une librairie, on se bat tous. Parce que, et en musique, j'en parle même pas. Musique, c'est terrible. Comment sortir du lot? Quand j'aime beaucoup Twitter, enfin, ce qu'il était, on va voir ce qu'il va devenir. Quand je lis Twitter, je regarde, ou Facebook, tout ce que chacun fait pour prouver qu'il existe. Exister, c'est s'en sortir en latin. S'en sortir. Chacun de nous, chacune de nous, a envie d'exister. La seule chose qui m'intéresse, ce sont les artistes. Je veux dire, il y a des politiques, des petits jeunes et tout ça, qui font tout pour exister. Sur les plateaux, ils ont les médias, et plus ils en font, plus ils sont sur les réseaux sociaux. Non, moi, je célèbre tous les artistes, photographes, architectes, écrivains, tous ceux qui se battent pour s'exprimer et qu'on aille vers eux. C'est ça qui me plaît.
Ben merci Charlotte Silvera. Je rappelle donc le titre du film « Lettre à l'enfant » que tu nous as donné. Merci pour être aussi vaillante. Et pour ne rien lâcher aussi pour la diversité de notre cinéma et la diversité de du point de vue sur le monde. On va terminer l'émission par, comme souvent on le fait, par une chronique, une recommandation. Je vais parler de Chacun cherche son chat, le film de Cédric Clapiche.
Magnifique!
Voilà, qui sortait en avril 1996. On va pas avoir le temps d'écouter la bande-annonce, je le dis à Marie-Lou en régie, mais on peut commencer à écouter un petit peu un des extraits de la bande originale du film, qui était signé Portishead. Donc c'était donc avril 96 que sortait Chacun cherche son chat, qui était le troisième long métrage de Cédric Clapiche. Et donc plus de 26 ans après, le film est réédité en Blu-ray chez M6 Vidéo. Alors on ne pouvait pas ne pas en parler à Aligre FM, forcément, puisque ce film a été tourné à deux pas du studio, dans le quartier du 11e, passage des Thaïlandiers, rue Keller, juste derrière la rue du Faubourg Saint-Antoine. Et plus précisément aussi, c'est le portrait de ce quartier, mais aussi une photographie de la vie de ce quartier, d'une jeune femme surtout. Et le synopsis du film, il est ultra léger, puisque donc c'est cette jeune femme qui cherche son chat à son retour de vacances, son chat qui a été gardé par une vieille dame, Madame René. Ce prétexte était l'occasion pour cette jeune femme jouée par Garance Clavel de se connecter aux habitants du quartier, et pour Clapiche de faire un film sur le lien. Comment de nombreuses solitudes vont faire connaissance, se parler. Il y a beaucoup de personnages dans le film, beaucoup d'acteurs, d'ailleurs Zinedine Soualem, acteur fétiche de Clapiche, Olivier Py dans le rôle du colocataire gay, Joël Brice, peintre, réalisateur, qui apparaît dans le film également, qui habitait le quartier véritablement à l'époque, avec Marie Vermillard, Madame René Le Calme, qui est morte il y a quelques années à l'âge de 100 ans, Simon Abkarian aussi, qu'on voit dans le film. La grande force de Clapiche est de partir du banal pour le tirer du côté du conte humaniste, un peu irréel, de faire le portrait de cette jeune Parisienne des années 90. Le film a valeur de témoignage encore aujourd'hui et préserve son charme, celui qui en fait un succès autant en France qu'à l'étranger. C'est le film de Clapiche qui a le plus marché d'ailleurs à l'étranger. Alors le cinéaste parle bien de son film dans un bonus où l'on retrouve aussi Garance Clavel et Zinedine Soilem. Give me a reason to be a woman, just wanna be a woman, chantait Baz Gibbons de Portishead, qu'on entend derrière ma voix. Donc c'était en 95, un an avant Chacun cherche son chat. Voilà, on va donc se quitter avec ce titre d'ailleurs qui fonctionne très bien aussi avec vous, Charlotte Silvera, quand on entend les paroles. Voilà, donc je rappelle le titre du coup de votre film une dernière fois, Lettre à l'enfant, que tu nous as donné en DVD. Voilà, merci Marie-Lou, Martinez, Enrico, Maestro Giovanni pour la réalisation de cette émission, et rendez-vous le 28 novembre pour un nouveau numéro de Nuit américaine. Vive le cinéma.
Merci Bernard.